Entre 1969 et 1972, 12 hommes ont marché sur la Lune. Ils sont montés dans une fusée géante, ils ont traversé plus de 380 000 km dans l'espace. Ils se sont posés sur la Lune, ils ont ramassé des cailloux, ils ont joué au golf, ils se sont cassés la gueule comme des abrutis, et ils sont revenus sur Terre vivants. Et aujourd'hui, plus de 50 ans plus tard, avec des ordinateurs 100 millions de fois plus puissants, des fusées réutilisables, des simulations numériques, des ingénieurs qui ont Bac plus 56 et des IA qui font tous les calculs pour nous, eh ben on galère à refaire la même chose. Alors forcément, une question se pose. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Est-ce qu'on se foutrait pas un petit peu de notre gueule?
Écoutez, franchement... il se peut que si.
Il y a 50 ans, ils ont réussi à faire ça avec des ordinateurs tout pourris et des processeurs moins puissants que ceux de nos iPhones. Internet n'existait même pas. Et aujourd'hui, en 2026, on galère encore. Non. Là, il y a un problème. Là, vous vous foutez de notre gueule. Pourquoi ça paraît si compliqué de retourner sur la Lune alors que la technologie est beaucoup plus avancée?
Moi aussi, j'ai posé la même question. Et tu sais ce qu'on m'a répondu? Demande pas.
Eh bien, messieurs, dames, chers Parsekiens, chères Parsekiennes, je vous propose aujourd'hui d'analyser ce problème dans les détails pour comprendre pourquoi la NASA met autant de temps à préparer son retour sur la Lune. Allez, let's go! On the moon again! Hello there! Cette nouvelle vidéo est sponsorisée par... Holly! Holly, vous connaissez, c'est une boisson en poudre, il faut ajouter de l'eau, et c'est tout. C'est-à-dire que c'est un petit peu le principe des boissons en poudre. Alors, pourquoi vous devriez essayer Holly?
Je sais pas.
Eh bien, je vais répondre à cette question. D'abord, c'est bon. Voilà, on va commencer par là. Moi, ça fait maintenant entre 2 et 3 ans que j'en bois régulièrement, et je kiffe toujours autant. Il y a plein de saveurs, il y en a tellement, et je vais toutes vous les citer, vous allez voir, c'est pas possible. Il y a saveur eau de mer, saveur nuage, saveur éclair...
Mais ça existe pas, saveur éclair.
Bah c'est bien ce que je te dis, c'est pas possible. Non mais vraiment, il y a gavé de goûts différents, vous allez forcément en trouver qui vous plaisent. Et là encore, je vous parle que des saveurs de la gamme énergie. Et oui, car il y a encore d'autres gammes. La gamme hydration avec de très bons goûts de fruits. La gamme iced tea avec des très bons goûts d'iced tea. Et la gamme milkshake avec des très bons goûts de milkshake. C'est hyper facile, hyper pratique, hyper bon, hyper génial. Vous prenez un petit sachet, vous l'ouvrez délicatement que ça. N'en renversez pas partout, hein, évidemment. Faites précaution. Vous versez tout doucement le contenu dans le shaker Holly, vous y ajoutez de l'eau, 50 centilitres, pas plus, vous fermez et vous secouez, et holy shit, it's ready baby, let's shake your booty. Et en même temps, c'est très bien parce que c'est écolo, beaucoup moins d'emballage que les canettes, un pot évite de jeter 50 canettes, c'est la planète qui vous remerciera. C'est excellent comestible. C'est de l'eau, des arômes naturels, pas de sucre, pas de taurine, des antioxydants et des vitamines. Avec ça, vous boirez l'eau autrement. Moi, je surkiffe tous les parfums de la gamme énergie, là. Je veux dire, et quand je bois ça, je me sens puissant. J'ai l'impression d'avoir...
des pouvoirs cosmiques phénoménaux.
Et en plus, comme ils utilisent de la New Caf...
Qu'est-ce que c'est?
C'est de la caféine cristallisée, hein, ouais, c'est comme ça qu'on appelle ça dans le jargon des boissons. Et ben, ça se diffuse dans votre corps plus longtemps pour un effet sur le plus long terme. Alors maintenant, il prend son petit clavier, il prend sa petite souris, et il va vite scanner le petit QR code, ou cliquer sur le lien dans l'inscription, ou entrer le code 12parsec, pour avoir 10% de réduction sur toutes ses prochaines commandes. Vous pourrez notamment commander un pack découverte dans lequel vous aurez 4 boîtes avec des saveurs de toutes les gammes différentes. Et vous pourrez choisir celle que vous aimez le plus, et puis ben, après, si vous kiffez vraiment, et bah tu fais comme moi, tu prends carrément le pot, ma gueule. Holy motherfucking god, qu'est-ce que vous attendez? Et tant que moi je continuerai à en boire parce que je continuerai à kiffer, et bah je continuerai de vous en parler. Et je remercie beaucoup Holly pour ce nouveau partenariat. Oh là là, il fait chaud, j'en peux plus là, je vous jure, j'arrête pas de boire. Je bois que du pastis. Alors là, c'est pas compliqué, depuis un mois, je descends plus de jaune que les Américains au Vietnam. Alors, on va d'abord se faire une petite introduction qui sera déjà bien balèze. Vous savez, c'est les fameuses introductions qui durent 18 minutes là. Bah là, c'est ça. Pour comprendre pourquoi on met autant de temps à retourner sur la Lune, enfin, je dis on, mais c'est les Américains, hein, et on, c'est pas nous. Ah bah non, on n'y va pas. Non, il y a que les Américains qui ont été là-haut. Les 12 astronautes qui sont allés sont tous Américains. Donc, pour comprendre pourquoi ils mettent autant de temps à retourner sur la Lune, il faut d'abord comprendre pourquoi et comment ils y ont été la première fois. Et vous allez voir que les raisons étaient très différentes de celles d'aujourd'hui. En gros, dans les années 60 et 70, les Américains sont allés sur la Lune uniquement dans le but d'en russe le plus profond possible, en leur montrant à eux et au reste du monde aussi au passage, qu'ils étaient les plus avancés technologiquement. C'est tout. C'était politique. Ils n'y sont pas allés pour faire de la science. C'est pas vrai, là, c'est faux. Celui qui dit ça, c'est un menteur. Alors, Évidemment, bien sûr qu'ils ont ramené des cailloux, ils ont posé des miroirs et des capteurs de... on sait pas où, on sait pas pourquoi. Ils ont fait les cons en bagnole, ils ont joué au golf, bon voilà, ils ont profité un peu, tu vois. Bah, vu qu'ils étaient sur place, autant aussi en profiter pour ramener quelques souvenirs. Vu le prix du voyage... Et puis bon, oui, au fur et à mesure des missions, surtout à partir de Apollo 15, 16 et 17, ils ont fait un peu de science, oui.
Bah oui, ils ont quand même envoyé un géologue...
Oui, non mais d'accord, oui, bon, ils l'ont mis pour faire bien, hein. Mais le but principal, c'était de battre la Russie à la course à l'espace, en y allant les premiers pour montrer que c'était eux qui avaient la plus grosse. Et encore, ils ont été cons, ils ont même pas mis d'astronaute noir dans l'équipe. Ah bah là, ils auraient gagné le concours direct, hein. Et pour faire ça, le gouvernement américain, sous la houlette d'abord du président John Fitzgerald Kennedy, qui a dit à tout le monde qu'on irait sur la Lune alors qu'il avait aucune idée de si on y arriverait ou pas. En fait, c'est surtout ensuite le président Lyndon Johnson qui a vraiment tout géré et qui a signé tous les chèques. Et à la fin, c'est Richard Nixon qui est arrivé en dernier en se foutant les pieds sous la table et en récoltant tous les honneurs quand Armstrong il a posé le pied sur la Lune. Mais pendant plusieurs années, tout le pays va s'employer à un véritable effort de guerre national en consacrant à la NASA près de 5% de son budget fédéral. Donc en gros le budget du pays. Et dans ces 5%, il y en a une grosse partie qui est partie pour le programme Apollo. Presque 400 000 personnes et plus de 20 000 partenaires et prestataires privés ont bossé sur le projet.
Ce qui est énorme, j'imagine.
Il y a eu je sais pas combien d'entreprises qui ont bossé sur plein de trucs. Il y a même eu des universités qui ont bossé avec la NASA pour la construction de plein de matos, la conception des équipements, des vaisseaux, des propulseurs, des combinaisons et tout le merdier là. Et aussi pour le suivi des missions. Il faut bien comprendre qu'à l'époque, on était dans le domaine de la priorité nationale. Le tout avec une tolérance au risque qui serait absolument impensable aujourd'hui. Et alors selon la manière dont on calcule l'inflation, moi je sais pas comment on la calcule, le programme Apollo aurait coûté dans les 250 milliards de dollars.
Hein, tant que ça ?
Eh ouais ma gueule, c'est quand même pas pire. Et comme qui dirait, 250 milliards de dollars...
Ça en fait de la pute.
Ensuite, bah ils ont été sur la Lune 6 fois, avec les missions Apollo 11, 12, pas 13, 14, 15, 16 et 17. Et ensuite, au bout d'un moment, bah ils ont arrêté.
Ah bon ?
Bah, et quand ils se sont rendus compte que ça servait plus à rien, bah, ils ont arrêté de bosser sur le projet. Ils ont démantelé une grosse partie des chaînes de production, ils ont fermé les usines. Tous les ingénieurs, au fur et à mesure, bah, ils sont repartis en retraite, ou après, bah, ils sont morts. Et surtout, la NASA a vu son budget baisser considérablement. Et ça, ça veut dire moins de thunes pour le développement de nouveaux vaisseaux spatiaux. Moins de missions, tu vois, moins de tout, tu vois. Je veux dire, voilà, il y a moins de possibilités. Parce qu'il n'y avait plus de thunes, voilà. Et puis, bah, sans thunes, tu fais rien. Comprends-tu ce que je veux te dire ? Et puis bon, si tu veux, à l'époque, il y a un moment donné où ils avaient aussi d'autres problèmes à gérer. Toi. Exemple, la guerre du Vietnam, pour ne citer qu'elle. Ah, disons que la guerre du Vietnam, ça leur a pris un petit peu de temps et un petit peu d'argent aussi. Donc à ce moment-là, retourner sur la Lune, c'était un peu le cadet de leurs soucis. Et au fur et à mesure, la Lune a un petit peu été délaissée au profit d'autres programmes spatiaux, comme la station spatiale Skylab, par exemple. Ensuite, il y a eu les navettes spatiales, il y a eu les satellites, il y a eu les sondes planétaires. Et plus tard, bien sûr, l'ISS. Et aujourd'hui, le budget de la NASA n'est plus que de 0,4%. C'est-à-dire 10 fois moins qu'à l'époque du programme Apollo. En gros, en très gros, les États-Unis ont mis toute leur thune pour prouver qu'ils étaient les plus forts, et une fois qu'ils l'ont prouvé, ben, il n'y avait plus rien à prouver. Plus sur ce sujet-là, en tout cas. Parce qu'une fois que tu as été sur la Lune et que tu as été 6 fois, bon, ben, on va pas y aller tous les ans non plus, hein. Surtout si ça coûte 250 milliards. Et puis si tu veux, disons que le retour sur investissement était pas non plus... Comme j'ai dit, ils ont bien ramené quelques cailloux, mais bon, tout ça pourquoi au final ? Pour les foutre dans des musées ou dans des laboratoires ? Ah super, hein, génial, 250 milliards de cailloux, c'est super les gars. Non, puis même le public, il commençait à s'en foutre. À un moment donné, quand ça fait 6 fois que tu vas quelque part, bon, ben, je sais pas, qu'est-ce que vous proposez d'autre aussi ? Ah ben, rien. Alors que c'est con, parce qu'il y avait encore plein de trucs à faire sur place, mais c'était beaucoup trop cher. Le jeu n'en valait plus la chandelle. Bon, je fais plein de raccourcis, hein, évidemment, vous vous en doutez bien, mais il n'empêche que c'est un peu ça quand même. Non, la vérité, c'est qu'ils n'ont pas trouvé de bonne raison de retourner sur la Lune, donc ils ont arrêté de faire des efforts pour ça. Et à côté, bah, les autres pays qui auraient pu essayer d'y aller aussi, bah eux, bah, il n'y en avait aucun qui avait la thune et qui avait les ressources technologiques pour y arriver non plus. Et c'est ainsi que la Lune est tombée dans l'oubli pendant des dizaines et des dizaines et des centaines et des milliards d'années, jusqu'au jour où un grand bouleversement se produisa.
Produisit.
Un événement qui a résonné dans les plus hautes sphères les plus grandes, avec des gens qui regardaient, ils en pouvaient plus, qui comprenaient pas, c'est parce qu'ils se demandaient.
Mais qu'est-ce qu'il dit ? Mais je comprends rien.
Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est jusqu'au jour où le spatial privé commercial a pris une toute nouvelle ampleur et c'est ça un peu le premier point, le modèle économique a complètement changé. Alors, je vais vous la faire très courte évidemment dans cette vidéo parce qu'il y a tellement de choses qui sont passées, il y a tellement d'acteurs qui rentrent en compte et si ça vous intéresse, il y a beaucoup de vidéos qui en parlent sur YouTube avec toutes ces chaînes, d'ailleurs les chaînes dédiées à l'espace de mes chers collègues que je vous conseille. Mais vraiment, c'est ça qu'il faut comprendre.
Tout le problème est là.
Voilà. Enfin, c'est pas tellement un problème, là. C'est plus une solution, du coup. En gros, depuis plusieurs années maintenant, pour certains programmes, la NASA ne gère plus la construction de toutes ces fusées et de tous les différents petits modules nécessaires à un voyage sur la Lune toute seule, dans les moindres détails. Elle délègue à des entreprises privées. Alors, attention, je dis pas que les entreprises privées sont arrivées il y a 10 ou 15 ans. Même dans les années 60, avec le programme Apollo, la NASA travaillait déjà avec Boeing, Grumman, North America Aviation et des milliers de sous-traitants, comme on l'a dit tout à l'heure. Ah bah, il y en avait plus de 20 000. Le module lunaire, c'est pas Kennedy qui l'a soulevé tout seul dans le sous-sol de la Maison Blanche. Ils ont délégué.
Qu'est-ce qui a changé ?
Bah, ce qui a changé, vous le voyez bien, c'est la manière dont la NASA travaille avec le secteur privé. Aujourd'hui, la NASA, elle passe commande auprès des sociétés privées en leur disant « Voilà de quoi on a besoin, voilà les normes de sécurité qu'il faut respecter, le nombre d'astronautes qu'on veut envoyer dans l'espace, le poids dont on a besoin qu'il faut pouvoir emporter au niveau du chargement, vous avez tant de temps pour le faire, vous investissez votre argent, et nous, on vous paye au fur et à mesure que les différentes étapes sont atteintes. » Et ça, ça change tout. Alors, c'est un système qui a déjà été expérimenté avec plein de trucs, hein, avec l'ISS par exemple. Encore une fois, c'est pas arrivé avec Artemis. Hein. Artemis, c'est le nom du nouveau programme lunaire hein, qui est en ce moment. Hein. Il y a plein de missions qui partent. Là, vous savez, l'Artemis 2, 3, 4, 5. Là, on en a au 3 actuellement. Et d'ailleurs, ça, ce modèle-là, ça concerne pas non plus tout ce que fait la NASA. Le lanceur actuel, là, le SLS, la construction, tout ça, ça fonctionne, on va dire, selon un modèle qui est beaucoup plus traditionnel. Mais on va pas rentrer là-dedans. Et évidemment, il y a un type qui a beaucoup fait avancer les choses. C'est ce type-là, Elon Musk qui s'appelle. Et lui, il a du fric. Il en a tellement que c'est l'homme le plus riche de la planète. Et il se trouve accessoirement que c'est un grand fan de la conquête spatiale. Et ça, ça fait bien les affaires de la NASA. Et donc lui, bah, il crée son entreprise, SpaceX, et ils vont construire d'abord le Falcon 9, qui est ce qu'on appelle un lanceur spatial. Nous, on appelle ça une fusée, parce que c'est une fusée, mais dans le jargon, on appelle ça un lanceur spatial. Parce que ça lance des trucs, tu vois, ça lance des petits vaisseaux qu'on attache dessus, ça lance du matos, ça lance des gens. Et la NASA l'a utilisé plein de fois pour ravitailler l'ISS, par exemple, avec aussi le petit vaisseau Dragon qui se fixe au-dessus, et qui, dans sa version cargo, transporte du matériel, des expériences et puis des provisions pour l'ISS, et dans sa version Crew Dragon, transporte des astronautes. Et ça, bah, à force de faire plein d'essais, bah, au bout d'un moment, bah, ça marche. Et SpaceX a donc démontré qu'une entreprise privée pouvait développer ses propres fusées et ses propres capsules, et vendre à la NASA un service complet de transport spatial. Et donc, pour la première fois, on a des vaisseaux qui n'appartiennent plus à la NASA. La NASA, elle achète à SpaceX des lancements et du transport de marchandises et d'astronautes. Et pour elle, bah, c'est vachement plus pratique, parce que maintenant, bah, c'est comme si elle avait plus rien à construire et qu'elle avait juste à acheter le billet. Alors, elle construit encore plein de trucs, hein, comme je vous ai dit. Encore une fois, le SLS, la capsule Orion, tout ça, c'est toujours elle. Mais bon, maintenant, elle peut en faire quand même beaucoup moins. Il y a quelqu'un qui pue, là, non?
C'est pas moi, hein. C'est lui,
non?
Non, c'est pas moi.
Ça pue, hein.
Bah, c'est pas moi, c'est peut-être toi.
Mais c'est mon t-shirt. Ah, j'ai pas mis la clim assez fort. Bon, je vais le changer, hein.
A few moments later.
Voilà, celui-là est beaucoup mieux. Simple, basique. Et en plus, SpaceX, ils ont réussi à faire un truc que la NASA n'avait jamais réussi à faire auparavant. Faire revenir des parties de vaisseaux pour les réutiliser. Des lanceurs réutilisables, bordel. Ça, c'est bon. Parce que SpaceX, c'est une entreprise, tu vois. Et comme toutes les entreprises, qu'est-ce qu'elles cherchent à faire? À réduire les coûts. Et le problème, c'est que jusqu'à maintenant, quand tu lançais une fusée, bah, elle explosait en vol et tu pouvais jamais la réutiliser. Alors quand Elon Musk, il arrive à faire revenir une partie de ta fusée pour la réutiliser après, en l'occurrence, là, c'est le premier étage. Oui, c'est pas non plus toute la fusée, hein. C'est pas... Non, on n'en est pas encore là, mais ils font revenir au moins une partie. Bah là, ça permet d'un seul coup de réduire énormément les coûts et aussi d'augmenter la fréquence des lancements parce que maintenant, t'as des trucs que t'as plus besoin de reconstruire.
Alors ça, c'est très tordu, mais bougrement intelligent.
Et ça, c'est hyper important, parce que pour les futures missions lunaires qui vont être lancées avec le Starship, donc le lanceur de SpaceX, hein, il faudra très certainement plusieurs lancements, rien que pour placer du carburant en orbite et ravitailler l'atterrisseur lunaire avant son départ vers la Lune. C'est pour ça que SpaceX devient essentiel pour la NASA et pour le programme Artemis. Et donc, bah, tout ça, hein, cet avènement du secteur privé, a permis d'ouvrir beaucoup plus de possibilités pour la NASA, qui peut maintenant travailler avec des prestataires qui sont très ambitieux, hein, qui en veulent pour gagner en leur donnant des nouveaux outils pour pouvoir réaliser des projets encore plus audacieux. Et ça, c'est beau. Et en plus, au même moment, qu'est-ce qui se passe? Pendant que les Américains, ils réorganisent complètement leur manière de faire du spatial. Eh ben, en face, il y en a d'autres aussi qui avancent très très vite. Suivez mon regard. Enfin, ils sont à l'est, donc du coup, ils sont plutôt par là. Et oui, les Chinois, bien sûr. Bah, évidemment, c'est toujours eux. Hein. Ah bah, les Chinois, ils disent rien, on les entend pas là-bas, de l'autre côté de la planète. Mais t'inquiète pas que... Hein? Ah bah, eux, ils déconnent pas. Hein. Je peux te dire que leur programme spatial, ils avancent à vitesse grand V. Ils ont déjà été les premiers à envoyer une sonde sur la face cachée de la Lune. Ils ont aussi envoyé leur rover sur Mars en 2021. Ah non, mais je vous le dis, c'est loin d'être déclenche. Pourtant, ils en ont l'air quand on les regarde comme ça, mais en fait, non. Ils sont très très bons, à tel point qu'on commence à dire, et depuis quelques temps maintenant, que si ça se trouve, les premiers à retourner sur la Lune, ce sera pas les Américains. Ce sera bien eux. Enfin, retourner, mais eux, ils y sont jamais allés. Mais bon, c'est en tout cas, ils vont peut-être y aller avant les Américains. Il y a Hugo Lisoire, d'ailleurs, qui a fait une vidéo là-dessus, hein, qui s'appelle « Pourquoi les États-Unis vont perdre la course à la Lune ?» Je vous la mets en description. Salut mon Hugo, j'espère que ça va bien. Ça fait longtemps que t'es pas venu faire un coucou sur la chaîne.
Bien trop longtemps.
Et si vous voulez, la Chine qui arrive sur la Lune avant les Américains, ça, c'est pas possible. Ah, ça, les Carrie, ça, ils l'accepteront jamais. Ah non, non, attends, la Lune, c'est à eux et à personne d'autre. Attends, t'imagines s'ils arrivent au pôle sud de la Lune, parce que c'est là qu'ils veulent aller, et qu'ils voient déjà un drapeau chinois qui flotte? Enfin, qui flotte, il flottera pas, vu qu'il n'y a pas d'air. Ah ouais, mais non, mais du coup, c'est pas normal, le drapeau américain, il devrait pas flotter, vu qu'il n'y a pas d'air, donc c'est pas normal, c'est du fake.
Il faut les dégommer, ces gens-là.
En tout cas, voilà, si les Américains, ils arrivent et qu'ils voient un autre drapeau qu'eux, ils vont se dire « Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Il y a des squatteurs, là. Il faut les virer tout de suite. On va vous balancer un nid de frelons, vous allez voir. » C'est donc décidé, après plus de 50 ans, il est l'heure de retourner sur la Lune, les mecs. Sauf que, eh oui, évidemment, quitte à y retourner, est-ce qu'on n'essaierait pas de faire quelque chose de genre 10 fois ou même 100 fois ou même 1000 fois mieux que nos collègues qu'ils ont fait il y a 50 ans? Est-ce qu'on n'essaierait pas de voir les choses en grand, en beaucoup, beaucoup plus grand?
Je crois que c'est une bonne idée.
Parce que la première fois, les gars des missions Apollo, ils sont quand même un petit peu allés à l'arrache, tu vois. Ils savaient pas trop où ils allaient atterrir et puis ils savaient pas trop ce qu'ils allaient foutre une fois sur place.
Arrête, tu déconnes.
Ah oui, je déconne. Non, mais évidemment, Apollo, c'était pas improvisé. Hein. Chaque minute était préparée, ils savaient exactement ce qu'ils allaient faire. Mais ce que je veux dire, c'est que l'objectif restait quand même ponctuel. On arrive sur place, on bosse quelques jours, on décolle et puis surtout, bah, on abandonne toute nos merdes sur place comme un bon supporter de foot après qu'il ait vu son match. Alors que maintenant, avec le programme Artemis, on va rien faire à l'arrache. On va tout calculer au poil de cul près pour qu'il n'y ait aucune place au doute ni au problème. Et surtout, surtout, on sait pourquoi on y va. On y va pour faire de la science, pour installer une présence sur la Lune, pour voir si on peut exploiter les ressources locales, et aussi beaucoup pour préparer le voyage vers Mars. Et oui, il faut bien comprendre que le retour de l'homme sur la Lune sert aussi beaucoup à préparer les futures missions vers Mars. Ça va être immensément plus difficile. Ne serait-ce que parce que c'est beaucoup plus loin. Hein. Aller sur la Lune, ça prend 3 jours, aller sur Mars, ça prend 7 mois. J'ai fait une vidéo là-dessus, qui s'appelle « Peut-on vivre sur Mars ?»
Mais est-ce que c'est la meilleure vidéo de la chaîne?
Pff, écoute... Je voulais pas le dire, mais puisque tu me forces. On a gavé de matos à tester, et la Lune est l'endroit parfait pour le faire. Moins de gravité, peu ou pas d'atmosphère, de la poussière partout qui fait chier tout le monde. Tout ce qu'on va apprendre à faire sur la Lune, comme poser des vaisseaux très lourds, construire des bases pressurisées et résistantes aux rayons cosmiques, développer des réacteurs nucléaires pour avoir de l'énergie, utiliser des nouveaux véhicules et des nouvelles combinaisons lunaires. Tout ça, on va le tester pour, à terme, le réutiliser, ou en tout cas pas tout, mais en partie, quand on ira sur Mars dans les années 2040. 2050 ou peut-être même encore après. Et là, vous comprenez un point très important, peut-être même le plus important de tous. Si on met autant de temps à retourner sur la Lune, c'est tout simplement parce qu'on ne refait pas le programme Apollo. On va faire beaucoup, beaucoup mieux. Apollo, c'était trop facile, tu vois, j'ai dit quelque part, c'était un petit peu de la merde. Ah non, c'était pas... Mais c'était trop facile. Et quand le chemin est trop facile, c'est qu'on est sur le mauvais chemin. Souvenez-vous de ces paroles et emportez-les avec vous. Alors non, évidemment, Apollo, c'était pas du tout très facile. C'était même bien au contraire. Et de toute façon, on sait très bien que pour le programme Artemis, les comparaisons avec le programme Apollo seront inévitables. Mais si vous voulez, dire « ils l'ont déjà fait, donc je vois vraiment pas pourquoi on met autant de temps, on pourrait complètement le faire une deuxième fois sans problème », alors oui. Effectivement, oui. Sauf que votre sans problème, vous pouvez l'écrire sur un petit bout de papier, le rouler en un petit tube comme ça, vous mettre en position latérale de sécurité, lever la jambe gauche et vous insérer délicatement votre petit bout de papier bien profondément dans votre cul. Parce que des problèmes, il va y en avoir beaucoup plus qu'avant étant donné qu'on ne fait pas du tout la même chose. Eh oui, c'est pas parce qu'on l'a fait une fois que c'est facile de le refaire. Vous voyez l'équipe de France de foot là, on a déjà gagné 2 fois la Coupe du Monde, et ben là on a encore perdu contre les Espagnols. On n'a pas réussi à le refaire alors qu'on l'avait déjà fait 2 fois. Eh, mais non, mais ça n'a rien à voir, ça a tout à avoir. Moi, par exemple, il y a 15 ans, j'ai couru un semi-marathon en 1h52. Parce que je courais pas mal à l'époque. Et bah aujourd'hui, avec des meilleures chaussures, avec une Apple Watch qui me calcule tout ce qu'il faut, avec la pure musique et tout, et puis avec des nouveaux produits, tu vois, et bah je suis totalement incapable de le refaire. Je me demande même comment j'ai réussi à faire ça un jour. Bon, peut-être aussi parce que je pesais 20 kilos de moins. Mais... Ah là là, c'était il y a 15 ans à peine. Il y a 15 ans déjà. Ma mémoire est incertaine, mais mon cœur, lui, n'oublie pas. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les missions Apollo, c'était presque des missions commando. C'était en mode, on y va, on plante un drapeau, on ramasse des cailloux, on revient et on prie très fort pour que personne ne finisse en carpaccio dans le vaisseau. Ah bah oui, bah demandez à l'équipage de la navette Columbia comment ça s'est passé à leur retour sur Terre en 2003. Ah bah ils vous répondront pas parce qu'ils sont tous morts. Hein. Ouais, ouais. Et puis bon, hein, on va pas parler de l'accident de la navette Challenger en 86. Ah bah eux, ils sont même pas partis du tout. Et puis bon, bah si tu veux, voilà, aujourd'hui on va quand même essayer d'éviter ça. Hein. Ça ferait tache sur le CV et sur le tableau de bord aussi. C'est pour ça qu'on vous dit on ne refait pas Apollo. On essaie de faire beaucoup plus ambitieux, plus sûr, plus professionnel, plus durable et surtout beaucoup plus tourné vers la droite. Mais vers le futur ! La NASA présente Artemis comme un programme pour établir une présence humaine durable sur la Lune. Construire une base lunaire, exploiter les ressources sur place, comme l'eau, le régolithe, l'hélium-3, et pour préparer aussi les futures missions sur Mars. Mais attendez, mais ça a plus rien à voir avec les programmes Apollo, ça ! Les mecs, à l'époque, ils partaient en bivouac, hein. Ils restaient 3 jours maximum. Cette fois, la NASA, elle veut faire des missions de plusieurs semaines, voire même plusieurs mois. Mais ça a plus rien à voir, bordel ! Neil Armstrong et Buzz Aldrin, ils ont passé 21 heures sur la Lune, et Eugene Cernan et Harrison Schmitt, le géologue justement de tout à l'heure, pour Apollo 17, ils ont aussi passé 3 jours, ils ont fait 3 sorties extravéhiculaires pour une durée de 22 heures au total. 22 heures, c'est pas mal. Sauf que là, avec Artemis 4, les astronautes, ils vont rester une semaine sur place. Ça fait 170 heures. Et ça encore, c'est juste pour les premières missions. Après, les durées de séjour, elles vont augmenter. Il y a même des mecs qui vont rester sur place. Non, là, cette fois, ça prend beaucoup plus de temps parce qu'il faut quasiment tout réinventer, les mecs. Attendez, mais bordel de Dieu!
Eh oh!
Oui, non, excusez-moi. Est-ce que vous savez que la NASA parle carrément de construire une station qui orbite autour de la Lune, dans laquelle les astronautes arriveraient de la Terre et irait dans un autre vaisseau, un atterrisseur, pour aller sur la Lune?
Non mais c'est fini ça, ils le font plus.
Comment ça?
Bah ils ont annulé le projet je crois.
Ah merde, déjà?
Ils l'ont pas annulé, ils l'ont décalé à plus tard.
Ah ouais?
Ils vont faire une base lunaire à la place.
Ah ouais, ouais, ouais.
C'est bien aussi, ça, remarque.
Ah oui, 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 oui.
Mais bon, il faudra quand même un atterrisseur. Parce qu'à l'époque, la Saturne V, elle envoyait tout d'un seul coup. Le module de commande, le module lunaire et tout. Aïe, parce que tu fais pas tout avec un même vaisseau. Hein, et pour chaque étape, il faut un vaisseau différent. Chacun son rôle. Alors, c'est vrai que c'est peut-être plus logique de faire comme ça, mais c'est aussi beaucoup plus risqué. Parce que si, par exemple, il y avait un problème au décollage, ben là, tu perdais tout d'un seul coup. Alors que là, cette fois, la NASA, elle voudrait que l'atterrisseur, il soit déjà en orbite autour de la Lune. On l'envoie avant, on le ravitaille en orbite terrestre. Ça va être un joyeux bordel, ça aussi. Hein. Ça, par exemple, tu vois. Ça, c'est pas prêt du tout. Il y a des trucs là dans le programme Artemis qui sont prêts, et il y en a d'autres, on n'y est pas du tout là. Et c'est justement tout ça qu'il faudra tester avec la prochaine mission Artemis 3 qui partira l'année prochaine, donc en 2027. Artemis 2, c'était en mai, là, il y a 4 astronautes qui sont allés faire le tour de la Lune pour faire plein de tests aussi. Et ensuite, avec Artemis 4 en 2028, hein, s'il y a pas d'autres changements d'ici là, et ben cette fois, il y aura 4 astronautes. Et oui, parce que cette fois, on en envoie 4, hein, et c'est un de plus que sur Apollo, ça aussi, tu vois. Mais bon, a priori, il y en aura quand même que 2 qui descendront sur place au début, comme pour Apollo. Et donc, on les enverra dans la capsule Orion qui est 30% plus grande que la capsule Apollo. Elle fait 4 places et il y a même des chiottes à l'intérieur. Et ça, c'est beau. Mais c'est pas avec la capsule Orion que les astronautes ils descendent sur la Lune. Ils doivent utiliser un atterrisseur qui les fait descendre, qui les fait rester quelques jours pour qu'ils fassent leur connerie et qui les fait revenir. Et oui, parce que le problème, c'est pas d'envoyer des hommes dans l'espace. Hein. Ça, on sait faire depuis longtemps. Hein. L'ISS, elle l'occupait depuis 20 ans. Non, le problème, c'est comment on les descend sur la Lune avec plein de matos, on les fait bosser tranquillement et on les fait remonter plusieurs jours après. Alors, je sais ce que vous allez me dire. Hein. Vous allez me dire, mais attends, de quoi tu nous parle, mais qu'est-ce que tu nous emmerdes? On l'a déjà fait plein de fois dans les années 70, pourquoi on le refait pas la même chose, bordel? Mais nom de Dieu, vous m'écoutez ou quoi? Puisque je vous dis que c'est plus du tout la même chose, merde!
Putain!
Les conditions ont complètement changé, les missions ont changé. Maintenant, on veut envoyer beaucoup plus de monde sur du long terme et surtout beaucoup plus de matos aussi. Et là, pour le moment, l'atterrisseur n'est pas prêt. Voilà, c'est un fait. C'est pour ça qu'on met autant de temps et que les missions sont repoussées. La NASA, ils ont le lanceur, le SLS, ils ont la capsule Orion pour voyager dans l'espace, mais ils ont pas l'atterrisseur. Et alors là, c'est justement là qu'arrivent SpaceX et Blue Origin, les sociétés de Elon Musk et Jeff Bezos, qui sont chargés de les construire. Eh oui, c'est eux qui doivent faire les atterrisseurs. Mais pour l'instant, c'est pas au point. Parce que contrairement à Apollo, cette fois, faut aussi amener du fret. 20 tonnes de matos qu'ils ont demandé à la NASA.
Hein, tant que ça?
Et du coup, SpaceX développe Starship HLS, qui va servir pour les prochaines missions, et Blue Origin développe Blue Moon, qui doit notamment servir pour les missions d'après encore, comme Artemis 5. Alors du coup, ils font plein de tests, hein, normal, et des trucs qui pètent dans tous les sens. Là, il y a Blue Origin, là, qui viennent juste exploser leur lanceur et leur pas de tir, là, les connards. Non mais l'explosion de malade quoi. Bon heureusement il y a aucun blessé, mais bon, il faut quand même pas trop qu'ils fassent les cons parce que chaque jour est compté. Les mecs ils ont seulement 2 ou 3 ans pour le faire. D'ailleurs il y a la chaîne Le Journal de l'Espace qui a fait une vidéo là-dessus. Alunissage, SpaceX et Blue Origin, qui sera prêt le premier? Je vous la mets en description. Salut mon Quentin, j'espère que tu vas bien. Ça fait longtemps que t'es pas venu faire un petit coucou sur la chaîne. Bah d'ailleurs t'es jamais venu faire de coucou sur la chaîne, et c'est pas plus mal. Et donc la NASA a besoin de ses atterrisseurs pour sa mission Artemis 4 qui devrait normalement enfin faire atterrir des astronautes sur la Lune en 2028. Normalement c'était prévu avec Artemis 3 justement cette année en 2026, mais il y a le nouveau patron de la NASA là, Jared Isaacman, qui a décidé de changer les plans et de rajouter une mission pour refaire des tests. Alors je pense que ce mec là il a été choisi parce qu'ils ont vu qu'avec ses oreilles il pouvait s'envoler dans l'espace sans l'aide d'une fusée. Même Trump, cet abruti, il s'est foutu de sa gueule. Et oui, mais en fait, c'est lui qui l'a choisi. Hein. C'est le président qui choisit le nouvel administrateur de la NASA, et il l'a choisi uniquement pour pouvoir se foutre de lui. Donald Trump dans ses œuvres. Et donc, avec Artemis 3, là, l'année prochaine, on va faire une grande répétition générale avant de descendre les astronautes sur la Lune. Alors, ça redécale encore le truc, tu vois, mais bon, c'est pas grave. C'est même pas plus mal, en fait. Tu vois. Ils veulent prendre leur temps pour faire les choses bien comme il faut. Parce qu'il ne faut pas confondre vitesse et précipitation.
Ne précipitons pas, mais songeons-y.
Et donc, comme je disais aussi avant, l'autre grande différence entre le programme Apollo et le programme Artemis, et ça c'est hyper important aussi, c'est que cette fois, on n'atterrit pas au même endroit. C'est un petit détail, mais qui fait toute son importance. Lors des missions Apollo, déjà, il n'y a aucun vaisseau qui a atterri au même endroit. Hein. Ils atterrissaient un petit peu où ils voulaient. Enfin, où ils voulaient, non, encore une fois, ils atterrissaient, ils savaient où ils allaient atterrir. Ils sont tous allés principalement vers l'équateur lunaire, on va dire. Tu vois, là, ils sont allés un peu partout, mais par là. D'ailleurs, si jamais vous voulez apprendre à reconnaître les mers et les cratères lunaires à l'œil nu, sachez que j'ai fait une excellente vidéo à ce sujet. C'est la meilleure vidéo de la chaîne, absolument. Jusqu'à la prochaine ancienne vidéo. Et là, avec Artemis, on vise maintenant le pôle sud lunaire, beaucoup plus intéressant scientifiquement, à cause des régions où il pourrait y avoir de la glace d'eau dans des cratères qui sont perpétuellement dans l'ombre. On appelle ça des cratères d'obscurité éternelle.
Histoire éternelle.
Et si vous voulez, si on trouve de l'eau, alors là, on a potentiellement tout gagné. Parce que la glace d'eau, on peut faire plein de trucs avec. On peut la faire fondre pour que les astronautes y puissent la boire. On peut aussi séparer les molécules d'oxygène et d'hydrogène pour essayer de créer une atmosphère respirable. On peut peut-être aussi faire du carburant pour les fusées, hein, ce qu'on appelle de l'ergol. Puis alors évidemment, le problème, c'est qu'on sait pas du tout encore si cette eau, elle est exploitable facilement. On connaît pas du tout la quantité, la concentration, la profondeur et la facilité d'extraction de cette glace. Eh oui, c'est pas un lac souterrain, on va mettre un tuyau puis un robinet. Si ça se trouve, on va creuser pendant 10 ans pour tout juste arriver à remplir une gourde. Mais bon, si on n'y va pas, on le saura jamais. Et c'est pareil, il y a des zones constamment dans l'ombre et d'autres zones éclairées pendant de très longues périodes. Et ça, c'est très pratique pour mettre des panneaux solaires. Surtout que comme il n'y a pas d'atmosphère sur la Lune, les rayons, ils arrivent directement à 100% de leur puissance. En même temps, comme on est au pôle sud, le soleil, il est très très bas sur l'horizon, donc les rayons, ils arrivent quasiment horizontalement. Tu vois. Donc t'as intérêt de vachement bien orienter tes panneaux si tu veux éviter les ombres gigantesques. Enfin bon, voilà pourquoi c'est beaucoup plus intéressant d'aller là-bas, mais c'est aussi beaucoup plus chiant à gérer. Il y a beaucoup plus de relief, il peut y avoir des galères avec l'éclairage et les ombres, et puis alors il y a les températures extrêmes aussi. Hein. Eh oui, Apollo, ils se sont posés dans des régions relativement plates. Et encore, il y en a un, deux ou trois qui ont quand même failli se viander. Avec notamment Apollo 15, là, qui ont atterri sur une pente. Là. Bon, le module était un peu penché, tu vois, mais bon, c'était quand même assez tranquille. Apollo, ils ont atterri dans un truc mignon, tu vois, c'était la Comté. Alors qu'Artemis, là, ils veulent aller dans le Mordor, tu vois. Et là, Gandalf, il sera pas là pour les aider. Hein. Et en plus, ils vont systématiquement devoir atterrir au même endroit pour ramener le matos pour construire la base lunaire. Donc ça, c'est de l'atterrissage de précision aussi. C'est pour ça qu'on développe des nouvelles technologies pour ça. En plus, quand Apollo 11 a atterri là sur la Lune avec Neil Armstrong qui pilote l'Eagle, là, quand il atterrit, il lui reste que quelques secondes de carburant. Ah oui, non, mais eux aussi, ils sont pas passés loin de la catastrophe. Hein. On voit d'ailleurs cette scène là qui est refaite à la perfection dans le film First Man avec Ryan Gosling et Neil Armstrong. Putain, mais cette séquence de l'atterrissage sur la Lune avec la musique, le thème musical de Justin Hurwitz, c'est un petit bijou de cinéma. On est littéralement avec eux dans le module. Bah, je fasse un jour ce film sur la chaîne. En tout cas, la NASA, ils veulent plus du tout jouer avec le feu comme ça parce qu'évidemment, les normes de sécurité ont changé. On peut plus du tout faire ce qu'on faisait avant. Dans les années 60 et 70, Apollo acceptait un niveau de risque qui serait aujourd'hui politiquement et médiatiquement beaucoup plus difficile à assumer. Comme on l'a dit tout à l'heure, les accidents des navettes Challenger et Columbia ont laissé des gros traumatismes aux Américains. Donc là, chaque système habité doit être testé, retesté, certifié, documenté, ajusté, amélioré, pour qu'on soit absolument certain qu'il n'y ait plus aucun problème. Alors, je sais très bien ce que vous allez me dire, tout ça c'est très bien, mais c'est exactement ce qu'il faisait déjà avant, connard. Et vous avez raison, tout à fait, oui. Il le faisait même très bien. C'est pour ça qu'Apollo 1 a tué 3 astronautes au sol en 67, bien sûr. Bon, c'était Apollo 1, hein, c'était vraiment les tout débuts. Même si c'est dramatique, évidemment, hein, bon bah, c'est quand même plus compréhensible que ce soit arrivé avec Apollo 1 qu'avec Apollo 17. Mais quand même, je veux dire, les mecs, tu sais, ils avaient pas peur. Hein. Ils savaient très bien que les chances de réussite, elles étaient quand même loin d'être confortable. Non mais attends, non mais aujourd'hui on pourrait jamais faire ça de la vie. On veut être sûr que tout ira bien. Même si on sait très bien que le risque zéro n'existe pas en astronautique. On sait très bien que même si tout est opérationnel et a été retesté 10 fois, 100 fois, 1000 fois, on sera jamais à l'abri d'un accident qui pourrait tuer tout l'équipage. Et ça ils le savent tous très bien, évidemment. Il n'empêche que le fait qu'il n'y ait pas eu de mort en vol lors des programmes Apollo, c'est presque un miracle. Et puis bon, on est quand même pas passé loin de la catastrophe avec la mission Apollo 13.
Houston, we have a problem.
Et c'est aussi d'ailleurs une des raisons qui ont fait que les programmes Apollo se sont arrêtés. Les mecs étaient quand même à peu près sûrs qu'il y a un moment donné ou un autre où il allait se passer une catastrophe. Et donc la NASA a préféré aussi arrêter, tu vois, sur un succès avec Apollo 17 plutôt que devoir arrêter parce qu'en fait, il y avait encore des astronautes qui étaient morts. Alors voilà, si on met autant de temps pour retourner sur la Lune, c'est pas parce qu'on est moins bon. C'est surtout parce qu'on est moins prêt à potentiellement envoyer des gens mourir dans une boîte de conserve, tout ça pour impressionner la Terre entière. On sait très bien que les Américains peuvent être très cons, mais quand même pas à ce point-là. Et puis alors on parle des vaisseaux depuis tout à l'heure, des lanceurs, des atterrisseurs, tout ce que vous voulez, mais il y a aussi un autre truc dont il faut qu'on parle. Il y a un autre truc aussi qui prend beaucoup de temps à être développé. Ce sont les nouvelles combinaisons lunaires. Les combinaisons AXEMU. Je sais pas comment on dit ça, les AXEMU. Et oui, parce que c'est pareil, vous imaginez bien qu'on va pas réutiliser les combinaisons qu'ils avaient dans les années 60 et 70.
Pourquoi ?
Attends, les trucs étaient hyper rigides, quoi. Il y a des mouvements que les mecs, ils avaient grave du mal à faire. Ils pouvaient même pas se mettre à genoux, quoi. Ils se cassaient la gueule systématiquement. Et ils avaient même carrément du mal à se relever tout seul, quoi. Ils devaient s'aider avec des outils ou avec le rover qui était à côté d'eux. Ah ouais, non, mais c'était pratique, hein. Et puis c'est pareil, pour prendre des trucs, simplement pour prendre un truc, bah, tu sais, fallait serrer à fond, quoi. La combinaison, elle était aussi résistante que si tu serres une balle de tennis. Les mecs, ils restaient 7 heures dehors et à la fin, t'en avais, ils avaient carrément du sang sous les ongles. Non mais attendez, non mais il est hors de question qu'on refasse comme ça. On n'est pas des manouches, attends quand même. Faut qu'on conçoive des combinaisons qui sont vachement mieux que celles d'avant. Je vous rappelle que les mecs, il va quand même falloir à terme qu'ils construisent une base lunaire sur place. Hein. Donc faut que les combinaisons elles soient pratiques, tu vois, et puis alors résistantes aussi. Parce que comme on l'a dit, je me rappelle beaucoup, mais encore une fois, les mecs vont rester beaucoup plus longtemps sur place. Donc ils vont être encore plus exposés aux éléments, comme le régolithe par exemple. Cette espèce de poussière faite de micro-fragments de roches ultra coupants qui s'infiltrent absolument partout. Et d'ailleurs, on étudie aussi hein, comment utiliser les régolithes justement pour pouvoir faire des panneaux solaires ou des briques, tu vois, pour construire des trucs. Ah oui, mais c'est pareil, Apollo, ils avaient pas étudié tout ça, ils en avaient rien à foutre de ça. Alors, ils en ont ramené du régolithe, ils étaient quand même intéressants, ils en ont ramené des dizaines de kilos d'ailleurs. Mais ils se sont pas forcément dit qu'on pouvait peut-être essayer de construire des trucs avec. Leur but, c'était pas de rester sur place, alors que là, cette fois, si. Là, maintenant, il va falloir apprendre à utiliser les ressources sur place, parce que si à chaque fois, en fait, on doit ramener tout de la Terre, je vous raconte pas les milliards qu'on va dépenser pour ça aussi. Et en plus, au pôle sublunaire, c'est surtout un environnement beaucoup plus bordélique et contrasté. Et la raison principale, c'est l'angle du soleil. Pour les missions Artemis, on parle parfois d'un soleil à seulement 1 ou 2 degrés au-dessus de l'horizon. Alors que pour les missions Apollo, bah eux, bah, c'était beaucoup plus. C'était de 8 à jusqu'à 50 degrés, tu vois.
Et ça fait quoi ?
Eh bah, ça fait que ça change complètement l'éclairage, qu'au pôle sud, le moindre relief peut avoir des ombres gigantesques. T'as des zones entières qui sont plongées dans le noir. Du coup, tu vois que dalle. Un caillou ou un rocher, une crête, le bord d'une montagne ou d'un cratère, bah tu le vois pas, mon gars, tu le vois pas. Le moindre caillou de 20 cm, il te projette une ombre aussi grande que la tour de Barad-dûr. Toi, t'es là, tu marches tranquillement, tu vois, et d'un seul coup, tu tombes dans un cratère, tu pètes ton casque et tu te transformes en monstre. Parce que l'air sur la Lune, c'est radioactif. Et comme il n'y a pas de gravité moléculaire, les atomes d'oxygène, ils remontent directement dans ton cerveau par capillarité quantique, ce qui inverse la polarité de tes chromosomes et qui déclenche une réaction en chaîne avec le magnésium de tes dents. À partir de là, ton ADN, il passe en mode plasma, tes globules rouges se mettent à orbiter autour de ton foie, et tu deviens progressivement une espèce de lézard nucléaire télépathe capable de respirer du régolithe.
C'est vrai ?
Mais bien sûr que c'est vrai ! Tu crois que je te raconte des conneries ?
Non.
Mais plus sérieusement, tu peux être en train de conduire ton rover, tu vois, et puis bah là, il y a une zone noire devant toi, et toi, bah, tu sais pas si c'est juste une ombre sur le sol, si c'est plat ou s'il y a gavé de rochers et de cailloux, s'il y en a, bah, tu sais pas la taille qu'ils font, ou alors tu sais pas si ça peut carrément être un cratère de 50 mètres de profondeur. Ah, je sens que ça va être bien pratique tout ça, ouais. Et puis c'est pas fini, il y a les températures extrêmes aussi. Un moment, tu peux te trouver en plein soleil où il fait entre 50 et 100 degrés, et tu passes derrière une montagne, et d'un seul coup, il fait moins de 100 degrés. Ah, je te raconte pas le merdier encore une fois pour que tout le matos continue de bien fonctionner. Ah oui, bah, n'empêche que les batteries, elles aiment pas trop, hein, les changements de température extrêmes comme ça. Enfin voilà, écoutez, on pourrait continuer encore longtemps, hein, comme ça, à énumérer toutes les raisons qui font qu'on n'est pas retourné sur la Lune depuis 50 ans. On n'a même pas parlé du côté politique hein, de tout ça. Hein. Voilà encore un autre gigantesque merdier. Parce que le programme Apollo, c'était clairement une mission politique avec des moyens, on va dire, allez, quasiment illimités. Enfin, presque. C'était une vitrine géopolitique, tu vois, il fallait battre l'URSS. Et pour ça, les Ricains, ils ont fait chauffer la carte bleue comme jamais. Alors qu'Artemis, c'est aussi très politique, avec des ambitions énormes, mais en même temps, un budget extrêmement surveillé. Et ça, ça change tout, parce que maintenant, la NASA, elle a beaucoup moins la liberté de cramer tout un tas de pognon juste pour tester des nouvelles idées, tu vois. Et les administrations aussi, elles changent très souvent, et d'une année à l'autre, il y a des budgets qui peuvent être complètement coupés. Aujourd'hui, la NASA, elle peut plus tellement débarquer au Congrès pour dire « Bonjour, alors il nous faudrait l'équivalent du PIB de la Croatie pour envoyer 4 de Noya faire du trampoline sur la Lune. » Eh non. Aujourd'hui, si on veut retourner sur la Lune, il faut faire attention au budget, attention au Congrès, attention à bien donner tous les boulots dans chaque état qui participe à la mission, attention à tous les contrats qu'on a avec les gens qui bossent dans les sociétés privées, attention au changement d'administration, et attention à tel ou tel sénateur qui veut absolument que le boulon numéro 7 il soit fabriqué dans sa circonscription. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'encore une fois, c'est un véritable millefeuille politique, parce que chacun veut aussi avoir son nom gravé sur la coque du vaisseau. Et je vous ai même pas parlé de l'ESA, donc l'Agence Spatiale Européenne, le CSA, donc l'Agence Spatiale Canadienne, et la JAXA, l'Agence Spatiale Japonaise, qui sont aussi sur le coup, hein, bien sûr, et qui apportent leur pierre à l'édifice, en fournissant à la NASA certains équipements et certains modules qui seront utilisés dans les différentes missions. Parce qu'Apollo était grave complexe, mais Artemis ajoute encore une nouvelle difficulté, toutes les différentes interfaces. Le SLS, il est fabriqué par plusieurs industriels différents. Orion, il est fabriqué par Lockheed Martin, une société américaine, avec aussi un module européen. Les combinaisons par Axiom. Les atterrisseurs par SpaceX et Blue Origin. Lunar Gateway, ça va être fait en collaboration avec plusieurs agences internationales. Et chaque morceau doit aller avec l'autre, tu vois. Chaque morceau doit s'amarrer tout pile comme il faut et respecter les mêmes normes alors même que ça a été construit dans une entreprise qui est au bout de la planète. T'imagines le bordel pour assembler tout ça? C'est comme si t'essayais de construire un Transformers avec des Lego, des Playmobil, des pièces Ikea et des pièces Temu, et ensuite de mettre 4 personnes dedans et de l'envoyer à 400 000 km de là. Bon chance! Alors, oui, on va très certainement retourner sur la Lune d'ici 2-3 ans, c'est prévu et ça va se faire, mais ça prend du temps parce que ça n'a plus rien à voir avec ce qui se faisait avant. Il y a tellement de nouveaux trucs à prévoir, il y a tellement de tests à faire qu'on ira seulement quand on sera prêt et quand Artemis sera terminé de tous les tests de tout son énorme usine à gaz. Donnez-leur encore un peu de temps, ils vont y arriver. Et quand ils y seront, les gars, alors là, ce sera, on l'espère, le début d'une nouvelle ère. Le début de quelque chose encore plus grand. Car n'oubliez pas que la Lune n'est qu'une étape et que la finalité, c'est la planète Mars. J'ai toujours pas bien compris ce qu'on allait foutre là-bas, mais en tout cas, c'est dans les cartons. Car même le plus long des voyages commence par un premier pas. Et voilà, c'est tout ce que je pouvais vous dire sur ce sujet qui est passionnant, ce sujet très intéressant. Pourquoi on met autant de temps à retourner sur la Lune? Maintenant, vous savez pourquoi. J'espère que la vidéo vous a plu. Encore une fois, si ça vous intéresse, moi, je n'ai fait que survoler le sujet. Il y a beaucoup de vidéos sur la chaîne Hugo Lisoire, le journal de l'espace et d'autres chaînes qui abordent chacun des sujets dans les détails vraiment et qui donnent énormément d'informations en plus. Mon but à moi avec ce type de vidéo, c'est toujours la même chose depuis le début, ça n'a jamais changé. Vous donner quelques informations, vous faire une sorte d'introduction à ce sujet. Et si ça vous intéresse, eh bien vous pouvez continuer vos recherches par vous-même. Allez, je vous laisse. Cette fois, c'est vraiment la pause estivale. Je m'absente pendant 3 semaines et quand je vais revenir, il me faudra à nouveau du temps pour faire la vidéo. Ce qui veut dire que vous devriez voir la prochaine vidéo courant du mois d'août. Comment vous allez faire pendant mon absence? Comment vous allez survivre sans moi? Eh bien en allant revoir mes anciennes vidéos, par exemple, hein, bien sûr. Est-ce que vous avez vu la dernière sur Avatar 3? Allez la voir, hein, elle a fait 2 fois moins de vues que d'habitude. Je sais pas pourquoi, peut-être que le film qui intéresse personne. Pourtant, elle est géniale, merde. Ah, c'est pas possible. C'est... Ah, mais... Encore une masterclass enterrée par l'algorithme. Enfin bref, je vous remercie encore et toujours pour votre fidélité. Je vous souhaite d'excellentes vacances pour ceux qui ont la chance d'en prendre. Et bon courage à tous les autres qui sont au taf. Quant à nous, on se retrouve dans un mois. Allez, à très bientôt pour un prochain épisode de cette Yann Solo sur 12 Parsec. Ciao !